أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Donc un nouveau cours de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une matière très vaste qui donc nécessite un enseignement. D'ailleurs, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a consacré toute sa vie, les 23 ans, à partir du message, à transmettre et à enseigner le tawhid. 23 ans, naam, jusqu'à la fin. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مماته أو عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, parmi ses dernières paroles, a dit « Que soient maudits les juifs et les chrétiens qui prennent leur lieu de culte comme tombe, comme tombeau. Qui prennent « ittakhadhu qubur anbiya'ihim » qui ont pris plutôt les tombes de leurs prophètes comme « qubur anbiya'ihim » masajid, comme lieu de culte. Ce qui est un dalil incontestable que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin, il a appelé au tawhid. Donc, comme le disent les savants, les 23 ans de son message, le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a appelé à l'unicité d'Allah. Il ne faut pas confondre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 10 premières années, il a appelé au tawhid, uniquement au tawhid et au comportement, il s'est concentré sur ça. Ça ne veut pas dire qu'à la suite, il n'a pu appeler au tawhid. Les 23 ans jusqu'à la fin, tout son message, c'est le tawhid. Les savants disent, Al-Qur'an kullu, التوحيد كله طول القرآن c'est du tawhid. Les savants de la sunna disent, je répète, tout le Coran C'est le tawhid. Alors ensuite, il y a un détail, ce n'est pas notre cours ici. Il y a un chapitre d'ailleurs sur ce sujet. Il y a un détail, par exemple, lorsqu'on dit plus particulièrement, mais il y a des versets de l'obéissance, il y a des versets de la désobéissance, il y a les versets du halal, du haram, tout ça, ça revient au tawhid. Pour qui tu fais le halal? Pour qui tu t'éloignes du haram? À qui tu obéis? À qui tu ne désobéis pas? À Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah ta'ala il a balayé les communautés qui lui ont désobéi, qui n'ont pas adhéré au tawhid? Parce qu'ils n'avaient pas le tawhid. Etc. etc. Tout revient au tawhid. Tout revient au tawhid. Donc, il n'est pas concevable et acceptable. Il n'est donc pas concevable et acceptable qu'un musulman non seulement ne connaisse pas le tawhid, mais encore plus qu'il n'apprenne pas le tawhid. Cheikh Salih al-Cheikh, hafizahullah, من علمائنا من علماء السنة في مادة التوحيد شيخ صالح للشيخ un de nos grands savants sur cette matière dans cette matière qu'est le tawhid dit dans une de ses explications ou bien ثلاثة الأصول أو قواعد أربعة أصول ستة. Dans une des trois, il dit le musulman ce qui lui est obligatoire. Le musulman concernant l'enseignement du tawhid ce qui lui est obligatoire. C'est de l'apprendre le tawhid une fois dans sa vie. Que ça reste, ça soit des bases ancrées. Une fois dans sa vie, il doit se consacrer à l'enseignement du tawhid. Ensuite, concernant le tawhid, beaucoup de gens assimile le tawhid comme quelque chose de restreint. Le tawhid, c'est quelque chose de plus vaste. Le tawhid, c'est quelque chose de vaste, très vaste. Yani, c'est-à-dire, que si tu apprends et tu adoptes, c'est-à-dire tu mets en pratique et tu as la conviction véritablement du tawhid, cela impliquera chez toi beaucoup de choses que beaucoup de gens qui prétendent au tawhid n'ont pas en réalité. Pour vous dire que le tawhid, c'est plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Exemple. Quelqu'un qui a et qui pratique véritablement le tawhid. Il aura un comportement exemplaire parce que c'est lié au tawhid. Quelqu'un qui également pratique, assimile le tawhid dans son sens large, vaste, il y a des désobéissances qu'il ne fera pas, des choses où il ne mettra jamais les pieds. C'est ces deux choses que nous venons, deux exemples que nous venons de donner, que nous venons de mentionner, ce sont deux choses que lorsqu'on parle de tawhid, on ne les voit pas directement, on n'en parle pas directement. Lorsqu'on fait des cours de tawhid, on ne parle pas forcément de comportement, on ne parle pas forcément de désobéissance ou d'obéissance. Mais c'est pourtant lié. On peut parler également de la foi. Plus tu as assimilé le tawhid, et plus ta foi elle sera forte. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant fort est plus aimé auprès de lui que le croyant faible. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala aime plus le croyant fort que le croyant faible. Mais dans le hadith, il est stipulé, il est mentionné, qu'Allah aime quand même, il y a du bien chez les deux. Il aime quand même le croyant à la fois faible, mais Allah aime plus le croyant à la fois fort. Et ce croyant à la fois forte, c'est qui? Alors on pourrait en faire un cours. C'est qui ce croyant à la fois forte? C'est pas celui qui fait mine de faire des cours de tawhid et ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Il fait des cours de tawhid, ouais, mais il y a la vie de tous les jours. C'est difficile de concilier les cours de tawhid et la vie de tous les jours sur le terrain, c'est pas pareil. Oui, parce que c'est pas rentré dans ton cœur. Après, tu vas aller au travail après le cours et comme tu as peur du patron, tu vas pas faire la salate à l'heure, par exemple, sur ton lieu de travail, ou alors tu vas des choses qui sont obligatoires, tu vas les mettre de côté. Ça rentre dans tawhid. Ça veut dire que ta foi, ton tawhid, il est faible. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Et si vous demandez le dalil, je n'attends pas qu'on me le demande, mais si vous vous posez la question sur le dalil, de quel est le lien avec le patron, le travail et le tawhid très faible? Tout simplement parce que les savants disent celui qui fait une désobéissance parce qu'il a peur d'un être humain, le patron ou autre, c'est du shirk. C'est du polythéisme. Donc cela n'entre-t-il pas dans le tawhid? Cela entre dans le tawhid. Celui qui fait du polythéisme mineur, parce que dans ce cas-là, wallahu a'lam, c'est du polythéisme mineur, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin dans une de ses explications de Thalathat al-Usul, les trois fondements. Celui qui désobéit à Allah, qui met de côté une obligation parce qu'il a peur d'un être humain, et on a donné l'exemple du patron, c'est du polythéisme mineur. Pardon, donc je n'entrerai pas dans les détails. Nous n'entrerons pas dans les détails de quel genre d'obligatoire. On a déjà donné un exemple. Mais à vous d'être vigilant et de réfléchir. Pour ne pas, au cas où certains élèves sont encore à un niveau où ils essayent de progresser doucement. Mais chacun sait ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Donc, à nous d'être sincères et véridiques et de se renseigner est-ce que telle chose est obligatoire ou ne l'est pas. Et si j'ai délaissé telle chose parce que j'ai peur du regard des gens, parce que j'ai peur du patron, exemple, je ne mets pas le hijab parce que j'ai peur du patron, ça c'est grave. polythéisme mineur. Wallahu a'lam. Et d'autres choses, hein, c'est valable pour l'homme aussi. Hein. Tout le monde sait ce qui est obligatoire pour l'homme, ce qui est obligatoire pour la femme. On n'est pas ici pour porter des jugements, ou on est là pour se corriger, on est là pour apprendre. Donc voilà. Donc à partir de cette petite introduction, petit à petit, et des autres introductions antérieures, on commence à assimiler la réalité, et nous disons bien la réalité et non l'utopie, car pour beaucoup de gens c'est une utopie, le tawhid, oui, on fait des cours comme ça, mais sur le terrain il n'y a rien. Donc petit à petit, au fur et à mesure, ici à l'Institut, on commence à assimiler l'importance capitale. Tu respires, c'est pour le tawhid. Tu vis, c'est pour le tawhid. Qu'est-ce que tu fais en contrepartie? Tu ne respires pas et tu ne vis pas pour consommer. Ça, ce sont des causes parallèles qui vont t'aider pour l'au-delà, manger, dormir, boire, etc. Tout ça, ce sont des causes, mais ce n'est pas le plus important, comme le disent les savants. Le tawhid, c'est plus important que de manger, boire, respirer, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui le dis, ou qui le prétend, ce sont les savants de la sunna. Il n'y a qu'à tourner les pages des ouvrages parmi les anciens, comme Ibn al-Qayyim, al-Jawziyyah, rahimahullah, etc., parmi les plus connus, qui sont des savants qui ont leurs ouvrages ont eu et auront un grand impact sur les cœurs. Et là, vous verrez la réalité des choses. Pas une fausse réalité. Donc, conclusion avant d'entrer dans ce cours. Conclusion, car dans une exhortation, dans une introduction, tout ce genre de choses, chez nous, je précise bien, chez nous, il y a toujours un message derrière. Il y a toujours un message derrière. Ce n'est pas des paroles comme ça. Donc, conclusion, al-khulasa, ici, quel est le message ici? Le message pour vous dire que le tawhid, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Comme une personne, comme l'exemple que nous avons donné, les exemples que nous avons donnés précédemment, des gens qui prétendent au tawhid, des gens qui donnent ou qui reçoivent des cours de tawhid, comportement zéro pointé, pratique zéro pointé, crainte d'Allah Ta'ala zéro pointé, Mu'amalat, échange avec les autres, zéro pointé. Ça, si tu dis je fais des cours de tawhid et tu entres dans toutes ces catégories, et on ne peut pas aujourd'hui faire le détail de chaque catégorie que nous venons de mentionner, mauvais comportement, c'est toutes les sifat, tu fais du tawhid et tu as toutes les caractéristiques, alors que tu reçoives ou que tu enseignes le tawhid. Hein. Encore plus grave si tu l'enseignes. Et par exemple, pour le comportement, tu as toutes les caractéristiques ou beaucoup de caractéristiques, n'empêche qu'une seule suffirait. Hein. Les caractéristiques blâmables de l'étudiant en science, méprisant, jaloux, pas souriant. Eh oui, on l'a vu dans notre premier ouvrage que nous avons étudié ici à l'Institut, Makarim al-Akhlaq, les nobles caractères avec Cheikh al-Uthaymin. On fera d'ailleurs un contrôle après le Ramadan sur celui-ci, cet ouvrage. On a vu avec Cheikh al-Uthaymin, parmi les caractéristiques de l'étudiant du musulman, Muntalaq al-Wajh. Il a un visage épanoui, souriant. Et toi, tu fais du tawhid. Et tu méprises, ton visage il est fermé, il n'y a pas de nour. Comment tu fais du tawhid? Explique-moi, comment tu étudies ou tu enseignes l'unicité d'Allah au Ta'ala, la chose la plus illuminante, illuminée dans l'univers, et toi, ton visage, il est ténébreux. Expliquez-moi. Voilà pourquoi nous disons le tawhid, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Oui, je fais du tawhid, je prends des cours. Oui, j'ai le livre chez moi. Tu as Kitab Tawhid? Oui, j'ai Kitab Tawhid. Alors là, on va donner le deuxième exemple. On a donné sur les déviances sur le comportement de quelqu'un qui fait du tawhid. Maintenant, on va donner deuxième exemple de quelqu'un qui fait, enseigne ou reçoit le tawhid et qui désobéit à Allah, normal. C'est normal, comme ils disent au bled. C'est normal. Eh bien, quelqu'un qui te dit, oui, j'ai fait le kitab tawhid, oui, on a fait kitab tawhid. Et à la première occasion, il va faire du, par exemple, du riba ou du reiba, hein, de la médisance, ou il va prendre les intérêts, ou il va tromper ses frères et sœurs. Tromper dans le sens large, hein, j'essaye de trouver un terme en français littéraire autre que un terme qui est un peu dans le jargon arnaqué, j'aime pas trop ce terme, mais en français littéraire. Donc voilà, une personne qui va faire ce genre de choses. Donc on a cité deux déviances, hein. Déviance dans le comportement, une chose qui est très grave alors que tu fais du tawhid, et déviance dans, ça entre aussi dans le comportement, mais c'est un genre à part de désobéir. Comment tu fais du tawhid et tu fais ces choses-là? Alors, attention, on va apprendre aujourd'hui, Inch'Allah, c'est pour ça qu'on ne va pas trop rester dans l'introduction, ça va nous prendre tout le temps, mais on va apprendre aujourd'hui, normalement c'est prévu dans notre cours, ici, que, attention, malgré tout ça, nous on est là pour enseigner la perfection. On n'est pas là pour enseigner moitié-moitié. On n'est pas là pour enseigner moitié-moitié. On est là pour enseigner la perfection. Mais il faut savoir, il n'en est pas moins que ce n'est pas parce que, c'est-à-dire, on va le voir ici, que le musulman, il peut être musulman et désobéir à Allah au Ta'ala, malgré que la désobéissance est une forme de mécréance, un genre de mécréance. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Mais c'est un genre, comme le mensonge est un genre d'hypocrisie. Ce que cela signifie, c'est que ça ne fait pas sortir, tout ce qu'on vient de citer dans cette introduction ne fait pas sortir la personne de l'islam, mais c'est de l'imperfection. Ça s'appelle la foi incomplète, la foi faible. Ça s'appelle être désobéissant. Et ça implique beaucoup de choses, même si cela ne fait pas sortir de l'islam. Cela implique beaucoup de choses. Cela implique que tu peux passer par l'enfer. Cela implique que tu peux t'égarer. Qu'Allah nous en préserve. Tu peux passer du sunnisme au chiisme. Tu peux passer de la sunna à la bid'a. Et c'est bien pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours d'être raffermi. Allahumma ya muqallib al-qulub, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Alors qu'il était pardonné avant et après. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé? À vous de deviner. Pardonné avant et après, il demandait toujours le raffermissement. Et pour vous donner un exemple, pour ceux qui se posent la question du sunnisme au chiisme, c'est vraiment combien de gens de la sunna, combien de gens de la sunna sont tombés chez les Khawarij? Combien? Nous-mêmes, nous avons eu un témoignage d'une personne lorsque nous avons fait, regardez sur YouTube, lorsque nous avons fait une réplique ou je ne sais plus, en tout cas on a parlé sur les chiites. Une personne qui nous a dit, moi avant j'étais genre de la sunna et maintenant, c'est pas dans ces termes, mais à peu près, maintenant je suis content, je suis chiite, quelque chose comme ça. Ne croyez pas que nous, on invente ou on raconte des histoires comme ça, des récits comme l'établir. Hein. Donc voilà pour cette introduction, qui est également une exhortation. Après un week-end comme ça, on est un peu, sauf pour ceux qui sont acharnés, qui révisent, qui écoutent des cours, etc. Mais pour ceux qui... Comme on se relâche un peu, c'est valable pour nous-mêmes. Hein. Comme on sera là, on se relâche un peu le week-end, etc. On revient le dimanche, cours de tawhid direct. Boum! Une exhortation pour ne pas se relâcher. On appelle ça le médicament. Le médicament. Les savants disent que l'être humain, il est comme ça. Il a besoin sans cesse. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, dans un de ses cours, le dit, l'être humain, il a besoin tous les jours, yaoumiyan, de renouveler sa foi. Il a besoin de rappel. Les gens, ils ont besoin. Y aura toujours quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, pour écouter, pour... L'être humain a besoin de rappel. C'est pour cela, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, que tous les matins, tu dis, et tu dois dire, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on dit ça tous les matins après le Fajr? J'agrée Allah comme Seigneur. Adoré. Hein? رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Et l'islam comme religion. وبمحمد نبيا. Et Mohammed عليه الصلاة والسلام comme prophète. Pourquoi on dit ça tous les jours? Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafidhahu Allah, nous dit, c'est pour renouveler tous les jours ta foi. Ton pacte avec Allah Ta'ala. Alors quand on dit, oui, j'ai fait du tawhid, oui, j'ai étudié le tawhid, oui, j'ai quitté le tawhid chez moi, oui, j'ai ceci, oui, j'ai fait cela, oui, je prends des cours avec les Cheikhs, les Mashaykhs, sur Internet, etc. Et sur le terrain, il y a quoi? Sur le terrain, il y a quoi? Parce que les enseignants, eux, ils transmettent sans aucun problème. Ils transmettent très bien même. Mais toi, comment tu reçois? Et comment tu appliques? Ça, c'est une autre histoire. Nous avons toujours dit, ne sois pas un spectateur dans les cours, mais sois un acteur. Ne sois pas un spectateur dans les cours. Sinon, tu es comme l'âne qui porte des livres. Taïb. On pourrait rester comme ça pendant 2 heures. Hein. On pourrait rester comme ça pendant 2 heures. Taïb, dans notre cours précédent, dans notre cours. Alors, juste une petite, pour terminer, on va prendre cette demi-heure pour continuer notre cours. Également, hein, attention, méfiez-vous aux stratagèmes du shaitan. Car parmi les stratagèmes du shaitan également, on fait des cours de tawahid, on fait des cours de tawahid, on parlait du comportement, on fait des cours de tawahid, on fait des cours de tawahid. On parle de comportement sur le terrain. Est-ce que vous savez que le plus grand nombre de femmes qui seront en enfer, c'est pas moi qui le dis, c'est un hadith du prophète, alayhi wassalam, ce seront les femmes qui ont été ingrates avec le mari. Et pourtant, combien elles enseignent ou elles prennent des cours de tawhid. Et elles font de l'injustice au mari. Et vice versa, pour ceux qui enseignent, les hommes qui enseignent le tawhid, ou qui prennent des cours de tawhid, et c'est tout autre chose quand ils sont à la maison. Attention au stratagème du shaitan. Ceux qui ont le plus droit à notre comportement, les premiers, c'est ceux qui sont à nos côtés, juste à côté de nous, yaoumiyan, tous les jours. Barakallahu fikum. Donc, dans le cours précédent, nous avions mentionné dans les cours précédents, nous avions mentionné 4 catégories. Les savants nous disent qu'il y a 4 catégories de gens concernant la connaissance du chemin des croyants et la connaissance du chemin des al-mujrimin. Des criminels. Mashallah, ça permet de voir également le suivi des étudiants. Barakallahu fikum. Le chemin des criminels. Alors vous voyez également ici, on peut assimiler justement ce taqsim, cette subdivision à ce qu'on a dit précédemment. Il y a bien des gens hein, qui vont étudier le tawhid, mais ils connaissent rien des gens du polythéisme ou des gens de la bid'a ou des gens. Donc ça veut dire que il y a aucune pratique. Tayyib. On avait vu dans notre cours précédent ces 4 catégories. Avant d'entrer dans le prochain sujet de notre cours, qui est d'entrer plus en détail dans les ajustements de la terminologie de mécréant ou autre, car c'est le sujet, comme vous le savez, de notre cours avant d'entrer dans les 10 actes annulatoires de l'islam, nous aimerions donner plus ample détail sur la 3e et la 4e catégorie que nous avions mentionnées dans le cours précédent. C'est-à-dire, la 3e catégorie, c'est celui qui a la connaissance du chemin des croyants en détail, mais qui ne connaît pas le chemin des criminels. Et la 4e, c'est celui qui connaît le chemin des criminels en détail, mais qui ne connaît pas le chemin des croyants, ne serait-ce qu'en général, hein, en globalité. Alors, ces 2 catégories, pour revenir dessus, le fait de ne pas de négliger ou de ne pas connaître, ou bien, pour la troisième catégorie, le chemin des criminels, ou bien pour la quatrième catégorie, le chemin des croyants, en réalité, c'est très grave. En réalité, c'est très grave. Il y a un gros manque. Et un manque qui peut mener à beaucoup de choses. Il peut mener au polythéisme, il peut mener à la mécréance, il peut mener à la désobéissance, il peut mener à l'égarement. Donc c'est très grave. Pourquoi? Une des causes dont nous avons parlé dans nos cours de Tawhid, pour ceux qui vont se souvenir, pour ceux qui retiennent bien les fondements, parce qu'attention, c'est le but. Il faut bien retenir les fondements. On avait expliqué que la ilaha illallah, la parole de Tawhid, kalimat al-Tawhid, elle est constituée, murakkiba min juz'ayn, elle est constituée au ruknayn. Elle est constituée de deux piliers. On est d'accord. On a déjà expliqué et analysé ces deux piliers, qu'il y avait un ordre bien distinct, premièrement, et que deuxièmement, ces deux piliers, qu'est-ce qu'ils englobent? Eh bien, indirectement, vous comprendrez ici par rapport à notre cours que la négation, c'est la négation de quoi? C'est la négation du polythéisme, de ses adeptes, etc. Indirectement, du chemin des criminels. Et Illallah, à part Allah, qui prend le chemin du tawhid de Illallah, c'est-à-dire l'affirmation de tout ce qui est d'Allah seul, pardon, sans associer, ce sont les croyants. Donc si on nommait par laxisme ou par ce que vous voulez, on nommait on met de côté un de ces deux piliers, c'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave. Voilà pourquoi le fait, donc on va être encore plus précis, si quelqu'un a uniquement la connaissance d'un de ces deux piliers, il connaît que la négation, donc il ne connaît pas le tawhid, gros problème. Gros problème. Gros problème, il ne connaît pas Allah Ta'ala. L'inverse, si quelqu'un connaît Allah Ta'ala, connaît le tawhid, mais il ne connaît pas le polythéisme. Gros problème. Gros manque. Et pour cela, nous avons le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui disait: les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, tout ce qui concerne le bien. Et moi, je demandais au messager d'Allah alayhi wa sallam tout ce qui concernait le mal, de peur qu'il ne m'atteigne ou que je tombe dedans. Ce qui signifie que le fait de ne pas connaître le chemin des moujélimines ou l'inverse, des criminels, ou ne pas connaître le chemin des croyants, c'est un gros manque. Et le mot est faible. Nous avons décrit et mentionné ce qu'implique ce manque. Mécréance, polythéisme, égarement, etc. Comme vous le savez, concernant ce sujet, n'en empêche que concernant ce sujet, il faut quand même rester dans le juste milieu. Il faut quand même rester dans le juste milieu et respecter son statut. Le statut pour nous ici de talibul ilm mubtadi. d'étudiants en sciences débutants. On respecte notre niveau, on apprend à notre niveau le chemin des croyants, le chemin des moujellimines. Hein? On mentionne des innovateurs, on mentionne. Vous voyez bien que dans les cours de Tawhid, on parle des Khawarij, des Mu'tazila, des Jahmiya, comme on a parlé, et ce n'est pas fini, des Haddadi, etc., etc. Barakallahu fikoum. Ensuite, lorsque, Inch'Allah ta'ala, on passera en tant que, au niveau d'étudiant intermédiaire, là, on commencera un peu encore à détailler le chemin des croyants et le chemin des criminels. Et lorsqu'on montera encore en niveau, là, on va rentrer encore dans le détail. Jusqu'au jour, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous le permette, d'atteindre un niveau détaillé, où là, on a du détail. Là, on a du détail. Où vous pourrez même, vous serez capable de comprendre et de faire, de mettre en place une mise en garde. Vous serez capable, Inch'Allah ta'ala, de répliquer avec les preuves du Kitab et du Sunna à n'importe quelle ambiguïté. Non. Taïb. Donc ici, on continue dans notre cours en mentionnant un nouveau sujet, en avançant sur le sujet, un nouveau mini-chapitre, Zikr ba'd al-dawabit at-takfir. La mention de certains ajustements, ou si vous voulez, certaines règles, concernant le takfir, le fait de rendre mécréant. Le fait de rendre mécréant. Et on constatera on ne parlera pas uniquement du terme mécréance. Alors, al-takfir hukm shar'i wa haqqu haqqullah. Comme on l'a dit précédemment, déjà, le fait de rendre mécréant, donc le takfir, on appelle ça faire le takfir de quelqu'un lorsqu'on le rend mécréant. Donc le takfir est un jugement légiféré qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'incombe donc à qui que ce soit, et il n'appartient donc à qui que ce soit, de délivrer ce jugement, de délivrer ce jugement en rapport à une parole prononcée ou à un acte, ou à une croyance en tant que personne mécréante. C'est-à-dire si on voit une personne dire du kouf, pratiquer du kouf, avoir une croyance de kouf, il ne nous appartient pas personnellement de le juger de mécréant à partir du moment où cela n'est pas basé sur le livre d'Allah Ta'ala. Donc, quel livre? Le Coran. Ou sur la sunna de son prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fatakfir haluhu wa hukmuhu ka hukm al-halali wal-haram. On nous dit, le fait de rendre mécréant, le fait de rendre mécréant, son statut, son jugement est égal, c'est comme le jugement du licite et de l'illicite. Tu n'iras pas rendre quelque chose de licite ou d'illicite sans en avoir la preuve et sans que cela soit confirmé dans le Kitab ou As-Sunna. Tu n'iras pas faire cela de ton propre chef. Tu n'en as pas le droit. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ Allah Ta'ala nous dit dans le Coran إن الحكم إلا لله سورة الأنعام verset 57 طيب سورة الأنعام verset 57 c'est le verset que nous vous avons mentionné précédemment. Voilà, également nous avons un verset un autre verset, wala yushrik fi hukmihi, wala yushrik fi hukmihi ahada. Donc ces deux versets, ils mentionnent que le jugement appartient uniquement à Allah Ta'ala. Et attention, dans le deuxième verset, je vais essayer de vous donner, après la mention, de vous donner le numéro. Je n'ai pas le numéro de la sourate. Al-Muhim, dans les versets, il y a la mention que, il faut faire attention, le fait de donner des jugements sans science, autre que les jugements d'Allah, ça peut entrer dans le polythéisme. Donc, attention, on prend ici connaissance directement de la gravité du fait de s'avancer dans les jugements. Taïb. Barakallahu fikoum. J'étais en train de mentionner justement la traduction. Je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur. Et vous avez traité cela de mensonge. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la fin. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité. Et il est le meilleur des juges. Ça, c'est Sourate Al-An'am, verset 57. Le deuxième verset, je vais vous dire tout de suite, Inch'Allah, le numéro. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, juste une faïda pour vous. Dans le milieu du Talab al-Ilm, ce n'est pas obligatoire de mentionner les numéros, des sourates, les versets, etc. Les savants, ils ne font pas ça. Le Talab al-Ilm, c'est à lui de chercher, etc. Nous, on facilite parce qu'on est dans un contexte francophone. C'est juste pour que vous le sachiez. C'est pour ça que sur mon livre, des fois c'est inscrit, des fois c'est pas inscrit. C'est pas une darura que Talab al-Ilm, il connaît le numéro et il donne le numéro. Dans les cours des savants, etc., vous ne les verrez pas mentionner les numéros. Ce sont juste les gens, les maisons d'édition, etc., ou les Talab al-Ilm, lorsqu'ils retranscrivent, ils mettent les numéros, etc., les versets, pour faciliter aux gens qui ne sont pas étudiants ou débutants, etc. Donc voilà, c'est juste une faïda pour vous. C'est bien pour cela qu'ici, je prends deux petites secondes pour vous mentionner, chercher le numéro du deuxième verset. Wala yushriku fi hukmihi ahada, surat Kahf, verset 26. Donc on va regarder la traduction. Ça veut dire surat 18, verset 26. À lui appartient, c'est pas ça, et il n'associe personne à son commandement. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui. C'est bien de lire, on va la lire du début, c'est mieux. Dit Allah, c'est mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui et ils n'associent personne à son commandement. Vous voyez, ils n'associent les croyants, ils n'associent personne au commandement d'Allah ou Ta'ala. Donc attention, le fait de prendre des jugements, barakallahu fikum, de prendre des jugements tout seul comme ça, ou alors attention également, les juifs et les chrétiens, les juifs qui ont été mentionnés comme associateurs, les chrétiens également, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ils ont pris les moines et les rabbins comme égal, hein, Arbaban, comme des égaux, des en dehors d'Allah. Les savants disent dans quoi? Dans quoi ils ont pris leur. Alors, ça, normalement, si vous avez bien analysé et vous êtes bien dans le cours, c'est possible de répondre. Qui peut répondre? À quel sujet les moines et les rabbins ont. À quel sujet les juifs et les chrétiens ont pris les moines et les rabbins en dehors d'Allah? Dans quoi? Ahsanti. Dans le jugement. La législation. Ahsanti également. Très bien. Dans la législation. Leurs moines et leurs rabbins leur ont. Alors les frères aussi, je regarde ici, les frères, dans le fait de rendre licite ou illicite. Ahsanti. Ahsanti. Papa, très bien. Assalamu alaikum, le hadith sur les femmes en enfer concernant les musulmanes, ce n'est pas que les non-musulmanes. Pour connaître le chemin des criminels, il faut lire les journaux, s'informer quand il y a une mise en garde. Taïb. Donc, on voit bien que les juifs et les chrétiens, par exemple, comme mentionné dans ce verset, ou d'autres versets, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins qui faisaient des jugements autres que les jugements d'Allah. Et pour cela, leur jugement a été la mécréance, le polythéisme, etc. Donc attention quand on commence à imiter les juifs et les chrétiens, à faire des jugements, à porter des jugements, que ce soit sur ça. Ça peut être général. Hein. Général, pardon, dans le licite et l'illicite. Ça peut être général également dans la mécréance, dans beaucoup de choses. Et plus particulièrement ici dans notre cours, tout ce qui concerne le fait d'attribuer des jugements de mécréants, de pervers. On parle de la grande catégorie ici, plus particulièrement. Sachant qu'on va le voir à la suite, il y a deux catégories de mécréance, de perversité ou de perversion, d'hypocrisie, etc. Et c'est ce qui fait toute la différence entre les gens de la Sunna et les autres. Les gens de la Sunna et les autres. Donc déjà, la première différence, c'est que les gens de la Sunna, ils n'attribuent pas à la légère comme ça des jugements, parce qu'ils connaissent la gravité. Deuxièmement, les gens de la Sunna, donc ils font attention. Deuxièmement, Naram, deuxièmement, il y a une subdivision chez les gens de la Sunna, appuyée par les preuves du Kitab et wa Sunna, concernant tous ces termes-là. Alors, avant de terminer ce cours, notre recommandation par rapport à cela. Ce que nous vous recommandons fermement, très important, ce que nous vous recommandons très fermement, et ça c'est un conseil, une recommandation pour les étudiants et autres, hein, étudiants et autres. C'est que ce que vous apprenez ici, ce sont des fondements et des bases. Donc, la recommandation ici, c'est qu'au moment où vous apprenez ces choses-là, au moment où on vous enseigne ces choses-là, il faut que ça fasse une partie intégrante de votre croyance, il faut que ça soit immédiat. J'ai vu hein, qu'il y avait une question sur le chat, je vais y venir hein, à la suite. Il faut que ce soit tout de suite là. Vous devez ancrer ça dans votre cœur et ça ne doit plus sortir jusqu'à la fin de vos jours. Pourquoi? Alors, Allah, il guide qu'il veut, il préserve qu'il veut, parce qu'il y a des gens et qui étaient très bien positionnés chez les gens de la Sunna, qui ont été parmi les précurseurs de la Dawa Salafia en France, qui étaient des gens qui donnait des cours, qui était imam en mosquée, des cours de tawhid, etc., qui du jour au lendemain ont commencé à dire non, l'hypocrisie ne se divise pas en deux catégories, la mécréance ne se divise pas en deux catégories, des trucs de Khawarij. Alors que c'était quelqu'un qui donnait des cours chez les gens de la Sunna, une grande référence au tout début, hein, de l'apparition de la Dawa Salafia en France. Donc pour vous dire, si vous ne voulez pas vous égarer, si vous ne voulez pas un jour ou l'autre vous manger des ambiguïtés, les choses, les fondements dans le tawhid et dans l'aqida que vous apprenez, et c'est même dans le fiqh aussi, et même dans le comportement, et même dans le manhaj, tout ce que vous apprenez à l'institut, pratiquez-le, mais quel genre de pratique? La pratique physique, si vous voulez, quand c'est le cas, mais également, amal al-qalb, comme on dit. Il faut que ça soit une pratique du cœur, partie intégrante dans votre cœur, très important. Alors, toujours la même chose, le chat, difficile de le mettre en grand. Alors, on va essayer de voir si on arrive. Alors, ça, ce sont la mention des versets. Législation. Par rapport au fait de dire que tel prêcheur en France, par exemple, je vais essayer de mettre le chat en grand, je ne l'arrive pas. C'est mieux pour moi. Par rapport au fait de dire que tel prêcheur en France, par exemple, est innovateur. Je vais donner un exemple pour être clair. Par exemple, Rachid Abou Hudaïfa. Les étudiants en sciences francophones ont mis en garde contre lui, mais aucun savant, car il n'est pas connu parmi eux. Hein? Puisque là, c'est clair. Ce chat, je n'arrive pas à voir les questions en entier. Alors, il faudra me dire si j'ai sauté quelque chose, hein, parce qu'avec le chat, si j'ai sauté des phrases avec le chat, je n'y arrive pas. Le fait qu'un étudiant en sciences dise d'une personne qu'elle est innovatrice, est-ce que l'on peut l'appeler ainsi, même si de toute façon on sait que dans les actes, c'est une réalité. Là, je parle de l'appellation innovateur en elle-même. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Les savants disent que l'étudiant en sciences religieuses, qui a le niveau, qui connaît la question sur laquelle il maîtrise, hein, il connaît son sujet, la question sur laquelle il s'avance, il peut faire une mise en garde. Il a le droit de faire une mise en garde. La mise en garde n'est pas exclusive au savant. Ça, c'est une première chose, c'est un premier point. À partir du moment où l'étudiant il fait une mise en garde, ça implique deux choses. Cheikh Wasfi Allah al-Abbas, Hafidahullah, qui est un de nos grands savants de la Sunna et qui est assez calé justement dans ces sujets de mise en garde, etc., de manhaj, a expliqué dans une vidéo que au moment où on fait une mise en garde, ça implique deux choses. Ça peut ou impliquer directement que la personne est innovateur, innovatrice, directement, comme c'est le cas par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler dans les réseaux sociaux d'un fléau un petit peu ancien maintenant, qui remonte à quelques années, comment il s'appelle, Islam, quelque chose comme ça, un Habbesh, Ash'ari. J'avais parlé un peu de lui. Il y a des prêcheurs qui ont fait d'ailleurs mise en garde contre lui. Très dangereux, hein. Une personne très dangereuse. J'ai oublié son nom. Lui, c'est... Ou Ou on va donner un autre exemple, Aïmenter, par exemple. Des gens dont le cas, il est tellement clair que tu peux le... Tu... Il est possible qu'un étudiant le juge d'innovateur. À partir du moment où l'étudiant, il connaît toutes les conditions, les empêchements et tout ce qui s'ensuit. Naam. Concernant maintenant le cas d'Abu Hudayfa. D'Abu Hudayfa. Pour un étudiant qui maîtrise et qui connaît également les conditions, il sait ce que c'est qu'un innovateur, quand est-ce qu'une personne entre dans l'innovation, etc. Je vous le dis parce que je connais une grande partie, un bon dossier, beaucoup de détails le concernant. Pour moi, alors, je vais même vous raconter un récit, hein, pour vous dire, hein, je vais vous raconter un récit qui m'est arrivé. Et comme ça, vous allez voir que nous, Inch'Allah Ta'ala, on essaye de pratiquer ce qu'on avance et d'être juste. Lorsque nous sommes revenus d'Algérie pour faire une halte en France et que nous avons commencé la Darwa fi França, il y avait des jeunes frères. Donc, quand nous avons quitté le quartier, ces frères étaient, bah, ils étaient jeunes, hein. Et lorsqu'on est revenu, ils ont grandi, ils se sont mis dans la religion, etc. Et ils ont cherché à apprendre. Donc automatiquement, lorsqu'on est revenu, ils nous ont sollicité pour donner des cours, etc. Et un jour, lors d'une réunion, ces frères nous ont demandé notre avis. Alors ça date à peu près de entre 5 et 7 ans. À l'époque où Rachid Abu Hudayfa portait d'ailleurs ce nom, et à l'époque où il avait l'ahya, la outra, etc. Ils nous ont demandé de donner un avis sur Rachid Abu Hudayfa. J'ai donc commencé à écouter un rappel, deux rappels, trois rappels, quatre rappels, et j'ai donc dit aux frères: je ne peux pas me prononcer. Allah est témoin. Je leur ai dit, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas, je n'ai pas assez d'éléments. Les frères me disent, tu sais, il y a des mises en garde sur lui, tout ça et tout. Je leur réponds, oui, mais moi, j'applique les règles des grands savants, etc. Et peut-être que eux, ils ont un gros dossier, ils ont des infos. Moi, pour l'instant, j'ai juste les vidéos que vous m'avez données, et pour moi, je ne peux pas dire que c'est un innovateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où il avait la hadra, où il avait l'ahya, où il parlait comme les gens de la sunna. Il mentionnait même les savants des gens de la sunna. Donc moi, j'arrive comme ça. Tout nouveau, on me met ça en vidéo, je regarde, je ne peux pas, je ne vois pas de déviance apparente. Parce qu'à cette époque-là, c'est pour ça qu'il a embobiné plein de gens, parce que c'était très, comment dirais-je, c'était très, bon, je ne trouve pas le terme, donc on dira caché, subtil. Il fallait vraiment avoir des connaissances pour le dévoiler à l'époque. Donc ce sont ceux qui étaient à l'époque le plus acharné dans le manhaj salafi, qui dès le début ont vu le poteau rose, comme on dit. Donc pendant plusieurs cours, j'ai dit au frère, je ne peux pas, mais je vais enquêter, je vais regarder, je vais jusqu'au jour où ça a été clair et j'ai dit non, là c'est non, là, c'est bizarre, il y a des choses bizarres, tout ça. Donc, je rejoins ceux qui ont fait mise en garde. Ils ont eu ce qu'on appelle une clairvoyance, quand même. Avec le temps, 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 jusqu'à aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, ça a été de plus en plus clair, plus en plus clair, jusqu'au moment où lui-même, il a affirmer ne pas faire partie des gens de la sunna. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il a retourné complètement, comme on dit, hein, c'est une parabole, sa veste. Donc, même si on pose la question aux savants, ils diront que c'est... Il s'est même mis affiché et, comment dirais-je, associé hein, avec des gens qui sont... Mais alors là, c'est plus que clair que ce sont des innovateurs, des frères musulmans. Comment s'appelle-t-il le beau-frère de Ismaël Mounir, Boussena. C'est un frère musulman, c'est un innovateur. Pour ne pas être trop dur, hein, pour les, s'il y a des débutants, pour ne pas les choquer ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui ne suivent pas la voie des gens de la sunna. La preuve, notre pays, la France, notre drapeau, la France, la France, c'est le kufr. Et eux, ils nous appellent à la démocratie l'alliance avec la France. Donc ça, c'est pas la croyance des gens de la sunna. Lui, il rejoint ces gens-là. N'a-t-il pas fait, ne sait pas, n'a-t-il pas adopté la charte des kofars? Peut-être pas celle d'aujourd'hui, ça je ne sais pas, ça sera encore plus grave pour lui s'il le fait. Mais l'ancienne, le fait d'aller passer un diplôme de laïcité ou je ne sais quoi, les gens de la sunna ne font pas ça. Donc son cas, lui, il est clair. Si vous posez la question à un savant, en réalité, l'étudiant en science, pour ma part à moi, si je porte un jugement d'associateur ou d'innovateur, ce qui est très rare, c'est que je me suis mis à la place du savant. Ça veut dire que je sais que le savant il va répondre ça. Sinon, jamais je me permettrai. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième question. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Si nous pouvons faire nos prières dans les temps à cause de l'école. Si nous pouvons pas faire, pardon, pas faire, ne pas faire nos prières dans les temps à cause de l'école. Cela fait-il partie du polythéisme mineur en sachant que nous avons d'abord demandé à la directrice sa permission pour l'effectuer dans ces lieux, mais celle-ci a refusé et ça ne nous laisse pas le choix, donc cela fait-il de nous des hypocrites effectué dans ces lieux, mais celle-ci a refusé. Hein. Donc, cela fait-il de nous des hypocrites envers notre tawhid? Barakallahu fikum. Tayyib. Alors, si j'ai la réponse hein, sur la langue, mais. Le shaitan, comme s'il m'avait ce qu'on appelle ça, shawesh, comme s'il m'avait dérangé à penser à autre chose et à être, comment on dit, à être comme gêné, penser à autre chose. Il m'a, a'oudhu billahi minash shaitani rajim, il m'a distrait, il m'a distrait. Donc, alors, concernant la prière à l'école, concernant la prière à l'école. Si la personne ne fait pas la prière à l'école parce que la directrice, même si elle lui a demandé, elle lui a interdit, etc., ça reste quand même très grave. Ça peut rentrer dans cette forme de polythéisme. Je n'ai pas dit c'est du polythéisme, j'ai dit ça peut, il y a un doute. Et attention, il y a une base fondamentale dans l'islam, basée sur un hadith, un des fondements de l'islam, c'est lorsqu'on a un doute sur quelque chose, il faut le délaisser. Lorsque l'on doute de quelque chose, la base dans l'islam, c'est qu'il faut le délaisser, il faut s'en éloigner. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Je ne sais pas, et ben je m'en éloigne, jusqu'à ce que je saurai, est-ce que c'est halal ou haram. Ça, c'est un des fondements dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'a lil makhluq fi ma'siyat al khaliq, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Donc au minimum, et ça c'est une chose dont je suis sûr, alors sur le polythéisme le doute plane, mais sur la désobéissance à Allah Ta'ala, sur la désobéissance à Allah Ta'ala, ça il n'y a pas de doute. Et attention, les prières, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut être laxiste ou quelque chose comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelque chose à la fin de cette parole. De l'hypocrisie envers le tawhid, le doute plane également. C'est possible. C'est possible. Vous savez, on a fait une exhortation au début de ce cours. On a parlé de, on fait des cours de tawhid, etc., etc., mais on désobéit à Allah à côté. Eh oui, si tu fais des cours de tawhid, le tu, c'est pas tu pour toi. Hein. C'est le tu, c'est un tu général. Hein. Si une personne fait des cours de tawhid et que cette personne, bah, à côté, elle fait passer ça là tout à l'heure, elle a peur du patron, tout ça. Il y a ce qu'on appelle tanaqir. Il y a une contradiction avec le tawhid, flagrante. Maintenant, il faut que je vérifie, je suis pratiquement sûr, il faut que je vérifie, je suis pratiquement sûr. C'est juste que j'ai beaucoup, 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 des fois, des fatwas dans la tête, et j'en suis sûr, mais j'aime bien aller revoir si c'est vraiment ça. Parce que comme c'est des choses graves, très importantes, j'aime bien quand même aller vérifier, être sûr. Concernant la prière à l'école, Cheikh Al-Thaymin dit, et il faut que je revérifie, mais je suis pratiquement sûr, un jeune frère qui ne peut pas faire ses prières à l'école m'avait posé la question, j'avais été vérifié, et Cheikh Al-Thaymin dit qu'il est possible de réunir les prières. Alors attention, hein. C'est pas réunir les cinq prières. Ça, c'est haram. C'est par exemple de réunir le dhuhr et l'asr lorsqu'on rentre. Parce qu'on n'a pas pu les faire à cause de l'école. Ça, il faut que je vérifie. Mais il me semble que Cheikh Al-Thaymin a émis cette fatwa. Mais j'aimerais bien avoir le livre et la fatwa devant moi pour pouvoir l'affirmer. Taïb, subtil. Subtil, ça veut dire que il y a des gens qui se présentent avec une amama ou une imama. Je pense, vous savez tout ce que c'est une imama, c'est un foulard blanc sur la tête. Qui d'ailleurs, les savants disent, celui, Cheikh Al-Thaymin dit, celui qui le fait, wafikum barakallah, wafikum barakallah. Celui qui met la outra avec la niya de faire la sunna, de ressembler au prophète, etc., il a les hasanettes. Donc n'écoutez pas les shubuhettes. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu... Ça, c'est des shubuhettes, des ambiguïtés fausses. Donc, quelqu'un comme ça, un prêcheur, il vient habillé bien en sunna, etc., il parle des ulama, mais en réalité, il a un autre manhaj. C'est peut-être un takfiri, c'est peut-être un tablir, c'est peut-être un habbej, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Son stratagème, il est subtil, ça veut dire il est caché, ça sera difficile pour le dévoiler. C'est subtil, c'est caché. Voilà ce que nous voulons dire par subtil. C'est peut-être pas le terme 100% adéquat, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est très très malicieux, ce stratagème, c'est très caché. Taïb. Alors oui, son cas est dramatique. Dans les cas semblables, il est donc permis pour nous musulmans du commun de dire qu'il est innovateur, vu que certains étudiants l'ont dit avant nous et que lui-même le revendique. Est-ce bien cela? Oui, si à partir du moment où il y a des étudiants qui ont fait un travail propre Attention, ce n'est pas n'importe quel étudiant. Des étudiants de confiance qui tiennent la route. C'est-à-dire, on sait qu'eux, ils ne parlent pas comme ça dans le vent. Ils ont des preuves de confiance. Oui. Oui. Et vous pouvez même dire de rien. Oui. Vous pouvez même dire, mentionner le nom du prêcheur. Oui, un tel a dit que c'était un innovateur. Donc voilà, par exemple, il y a certaines personnes ici à Wa-iyyakum, sous-jacent pour subtil, oui, si vous voulez. Wa-iyyakum. Par exemple, si vous voulez, lorsque nous avons essayé de faire un travail en mentionnant, en dévoilant les haddadis, que ce soit à Birmingham ou autre. Donc, il y a des gens, on nous a posé des questions sur beaucoup de prêcheurs. Et vous voyez, nous, on ne fait pas de publicité de cinéma. Parce que c'est des choses en coulisses. On nous a posé des questions. Et un tel, comme ils ont signé, comme ceci, comme cela, qu'en pensez-vous? On n'a jamais dit que c'était des innovateurs. On a dit, ne prenez pas d'eux. Ne prenez pas d'eux. Tous ceux qui ont signé ce fameux fascicule-là, ne prenez pas d'eux. Mais on n'a jamais dit que c'était des innovateurs. Pourquoi? Parce que on ne considère pas qu'ils sont innovateurs. Mais il y en a d'autres comme ceux de Birmingham, par exemple. Comme ceux de Birmingham. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder. Un jour, on nous a posé la question, quelles sont vos preuves que Abu Khadija de Birmingham ou Mehdi ou les autres frôlent ou sont entrés dans l'innovation? Sont des innovateurs. Nous avons apporté nos preuves. Nous avons apporté nos preuves. Alors j'avais oublié, j'avais pas terminé avec Cheikh Wasi Allah, il mentionne deux cas lorsqu'on fait une mise en garde, pour terminer. Cheikh Wasi Allah, Al-Abbès, il dit lorsque un étudiant ou un savant fait une mise en garde contre un tel. Et la première catégorie, c'est que ça va être un genre de tirer la sonnette d'alarme pour qu'il se rétracte ou il revient à la raison. Première mise en garde. Genre de mise en garde. Au bout d'un certain temps, s'il ne revient pas, eh ben, et il continue sur ses agissements, là, ça devient innovateur. Et vous avez celui que, là, c'est vraiment son cas, il est clair, de chez clair, que lui, il est innovateur. Comme par exemple Aïmenter, Islam, je ne sais plus quoi là, ou d'autres, Ismaël Mounir, Boussena, aujourd'hui Rachid Aljaï, hein, qui a fait un revirement spectaculaire et qui a revendiqué son innovation. Hein. Donc moi, vous savez, je n'aime pas. Hein. Moi, je n'aime pas. Qualifier les gens d'innovateurs ou de ceci ou de cela, moi j'aime pas ça. Mais pour un talab al-ilm ou quoi, c'est incontournable. C'est incontournable. Qu'est-ce qu'on fait? On va se taire sur la vérité et là c'est nous qui aurons un problème. Là c'est nous qui aurons un problème. C'est une obligation et c'est même considéré comme une lutte dans le sentier d'Allah, djihad fi sabilillah, de dévoiler les innovateurs, etc., etc. Mais sachez que nous on prend pas ça à la légère. On est en train de vous faire un cours ici sur la terminologie mécréant, innovateur, pervers, etc., injuste et tout ce qui s'ensuit, c'est pas pour à la première occasion, lui c'est un innovateur, lui c'est un associateur, lui c'est un mécréant. Nous, on n'est pas comme ça. On n'a pas appris la religion comme ça. Donc également, à vous de faire attention. Parce que ça, c'est de la haddadia, hein, de taxer les gens d'innovateurs, c'est de la haddadia. Alors qu'ils ne sont pas innovateurs, inventer des règles dans la salafia qui n'existent pas, lui, comme il n'est pas venu à notre mosquée, lui, comme il ne prend pas de chir un tel, c'est un innovateur. Bah, à force de faire ça, de s'enfoncer dans ça, eh ben, c'est toi qui deviens l'innovateur. Donc faites très attention. C'est toi qui deviens, à la fin, l'innovateur. Barakallahu fiikum, wa hayakumullahu li ta'atihi, wa subhanakallahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله pour le deuxième cours dans quelques petites minutes, incessamment sous peu, le deuxième cours sur les sciences du Coran, si je ne me trompe pas, va commencer. Donnez-moi juste quelques petites minutes et veuillez accepter mes excuses sur le débordement concernant l'horaire du cours. Ce cours qui était très intéressant et très enrichissant pour nous-mêmes, d'ailleurs, c'est un rappel. La raison pour laquelle, et puis les questions, la raison pour laquelle nous avons débordé. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.